ce soir, l'opinion publique est-elle un juge à part entière ? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le lieu de la manifestation n'avait pas été choisi au hasard. Samedi, c'est dans le parc situé en face du tribunal de grande instance de Bobigny que plusieurs centaines de personnes s'étaient donné rendez-vous pour un rassemblement de soutien à Théo, victime de violences policières quelques jours plus tôt. Une façon d'exiger que justice soit faite, étant sous-entendu qu'elle ne l'est pas toujours dans ce genre d'affaires. Alors on ne saura jamais ce qui serait advenu du dossier de ce jeune homme si les médias ne s'en étaient pas emparés. Stratégie payante ou pas pour la victime. En tout cas, les violences qui ont accompagné le rassemblement de samedi montrent que la médiatisation d'une affaire judiciaire en cours est un exercice délicat à maîtriser. L'opinion peut vite chavirer, a fortiori en période électorale. La justice est régulièrement confrontée à ce genre de phénomène, à savoir une affaire qui s'invite dans le débat politique, au point que l'opinion publique devient un acteur, si ce n'est décisif, en tout cas central de la procédure. Les récents débats autour de l'affaire Jacqueline Sauvage en ont été une des plus parfaites illustrations. On peut y voir une forme de logique. Après tout, les magistrats ne sont-ils pas censés rendre la justice au nom du peuple français, donc de tenir compte de son avis ? Alors l'opinion publique est-elle un juge à part entière ? C'est la question que nous allons poser ce soir à quatre invités. Nathalie Tomasini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate. Vous avez défendu Jacqueline Sauvage lors de ses procès en octobre 2014 et en décembre 2015. Jacqueline Sauvage, je le rappelle, qui avait été condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari et qui a été définitivement graciée fin décembre par le président de la République. Pour discuter avec vous, Frédéric Zajac, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également avocat. Vous défendez la famille d'Adama Traoré. Adama Traoré, c'est un jeune homme de 24 ans qui est mort en juillet dernier, le 19 juillet à Beaumont-sur-Oise suite à son interpellation par les gendarmes. Alors même si vous n'êtes plus directement sur cette affaire, où est-ce qu'on en est de la procédure judiciaire? Est-ce que vous continuez à la suivre même d'un petit peu plus loin?
Non, je la suis de façon parcellaire. Il y a deux juges d'instruction qui ont été désignés à Paris. Ça a été délocalisé. Et c'est mon confrère Bouzerou qui s'occupe désormais du dossier d'instruction.
Voilà, c'est une affaire qui est toujours en cours, évidemment. Troisième invité, Jacky Coulon, bonsoir.
Bonsoir, Vercadette.
Vous êtes magistrat, secrétaire général de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, qui est une des organisations syndicales de magistrats en France. Et puis quatrième invité, Jean-Philippe Deniaud, bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Vous êtes journaliste, chef du service enquête justice sur France Inter, par ailleurs vice-président de l'association confraternelle de la presse judiciaire. Alors, une des questions qu'on se pose ce soir traite de la médiatisation et des effets de la médiatisation de certaines affaires. Mais avant de voir les effets, moi j'aimerais comprendre pourquoi certaines affaires judiciaires se retrouvent médiatisées quand d'autres ne le sont pas. Est-ce que c'est, Jean-Philippe Deniaud, parce que les journalistes s'intéressent plus particulièrement à certaines affaires plutôt qu'à d'autres? Et pourquoi? Ou bien parce que ceux qui portent ces affaires sont plus habiles pour... intéresser les journalistes et la presse?
Je pense d'une manière générale que la presse va s'intéresser à deux types d'affaires. Le premier, ce sont les affaires dont le fait divers, dont les faits à la base ont eu un retentissement énorme. Donc le procès promet d'être un instant énorme de cette chaîne pénale. Et puis le deuxième type d'affaires auquel la presse s'intéresse au niveau et au stade du procès, je dirais que ce sont les affaires qui soulèvent des questions de société et qui, justement, renvoient à la société des questionnements et donnent des réponses. Et ces réponses ne sont pas toujours admises.
Est-ce que vous partagez déjà cette première analyse, Jacky Coulon ?
Oui, on peut effectivement partager cette analyse, notamment sur les questions de société qui sont évoquées à l'instant. On y reviendra plus tard.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi des affaires qui sont médiatisées parce qu'il y a une forme d'habileté de la part, par exemple, des avocats? Là, je me tourne vers Nathalie Tomasini et Frédéric Zajac, à savoir voilà ce qui peut fonctionner et avoir, en tout cas, la maîtrise de ces relais d'opinion que sont les médias, justement, pour porter une affaire sur la place publique, pour peut-être, justement, essayer d'influencer ce que va être soit l'instruction du dossier, soit le procès à venir. Nathalie Tomasini.
Alors, vous parlez de maîtrise. Je pense que c'est pas vraiment le terme, parce qu'effectivement, se servir des médias, c'est à double tranchant. En réalité, dans l'affaire Sauvage, nous n'avons pas cherché immédiatement à médiatiser, à sensibiliser l'opinion. Mais comme vous le disiez, il s'agit d'un fléau de société qui était derrière cette affaire de Jacqueline Sauvage, c'est-à-dire les violences conjugales. Les violences conjugales, toute la société, sensibilisée par les différents plans de campagne, est attentive à ce fléau-là. Lorsque nous avons décidé de prendre ce dossier, Jacqueline Sauvage, nous avons immédiatement vu que derrière cette histoire, il y avait cette défense de cette femme qui avait été violentée pendant plusieurs années. Au départ, nous avons dit, bon, il faut le prendre parce que ça fait partie de notre combat. Et nous allons défendre cette femme comme elle le mérite. Il y avait également dans ce dossier la notion de légitime défense différée, qui est aussi donc quelque chose que l'on voulait porter sur la place médiatique.
Ouais, mais justement, est-ce que vous sentiez qu'en prenant ce dossier, qu'il y avait la possibilité d'en faire une affaire qui serait largement médiatisée ? Ou bien est-ce que vous l'avez découvert au fur et à mesure de vos actions ?
On l'a découvert au fur et à mesure. C'est-à-dire que l'opinion elle-même, il y a eu une espèce de vague qui est partie de la société dans son entier et qui nous a porté. Certes, on avait vu l'enjeu sociétal de cette affaire, mais on a été dépassé par la réaction de l'opinion publique. Et c'est elle, en fait, qui a porté tout ça. C'est l'opinion publique dans son ensemble.
Frédéric Zajac.
Oui, ben, c'était intéressant parce que c'est là où je ne partage pas. Là, ce qu'on vient de vous dire, en fait, on utilise. Pour moi, c'est une utilisation des médias comme une arme médiatique pour obtenir un résultat. Je le dis, je suis avocat aussi. Hein. Je connais Maître Tomasini depuis 5 minutes, mais je ne peux pas partager ça. Il y a eu 2 grâces présidentielles. Je ne veux pas rentrer dans le fond du dossier. C'est juste sur les principes que ça me choque. Et qu'on a quand même des jurés populaires qui sont intervenus. Les jurés populaires, ça fait partie aussi de l'opinion publique. La différence, c'est que le juré populaire, moi qui fais beaucoup de droit criminel, les jurés populaires, ils ont accès à l'intégralité des éléments d'un dossier. Et ce qui m'a surpris, même si je ne peux pas rentrer dans le fond du dossier, parce que je ne connais pas le fond du dossier, on a 2 décisions de justice par des jurés populaires, un jury populaire qui rend la même décision. Ce qui m'a choqué, c'est ces 2 grâces, je vous le dis. Je n'avais jamais vu ça dans la 5e République. La grâce présidentielle, c'est au départ, c'était pour la peine capitale. On a une première grâce et ensuite une deuxième grâce parce que l'opinion publique a imposé au chef de l'État de prendre cette décision.
Mais ce qui vous a posé problème, Frédéric Zajac, c'est quoi ? C'est qu'on se serve de l'opinion publique comme d'une arme dans cette affaire ou qu'on s'en serve en général, quel que soit le genre d'affaire ? Moi, les avocats, on ne peut pas dire que ce soit les gens les plus, on va dire, la profession la plus discrète au niveau médiatique. En général, ils utilisent les médias, ils en ont besoin des médias.
Alors, c'est là où on rentre dans le nœud du problème dans la profession des avocats. Les avocats, il y en a 65 000 en France. 65 000. Vous n'en voyez pas 65 000 devant les journaux télévisés ou à la radio. Et la difficulté, c'est que, en tout cas, c'est ma conception de ce métier, c'est que la presse, on doit faire intervenir la presse quand on a besoin pour rétablir une sorte de vérité. Voyez-vous, par exemple, dans l'affaire Adama Traoré, je vous le dis, il y a eu une mauvaise communication à la base du parquet et du procureur de la République qui a dit une chose ou qui a oublié de dire une chose qui était essentielle. Et là, je me suis trouvé dans l'obligation de faire une conférence de presse pour établir quelque chose de vrai. Mais ce n'est pas devenu une arme pour obtenir gain de cause ou je ne sais quoi, en tout cas pas dans mon esprit. Et le danger, c'est que ça devienne une arme, parce que moi je considère que l'opinion publique ne peut pas être un juge, ça ne peut être qu'une arme.
Jacques Coulon.
Oui, ce que je veux dire, c'est que les décisions de justice, elles se prennent dans les palais de justice, suivant l'application d'une procédure qui respecte les droits de chacun, aussi bien de la défense que de la victime, qui peut être partie civile. Et donc, ça ne se passe pas devant ce que certains appellent le tribunal médiatique. Pour reprendre l'expression que donnait Maître Tomasini tout à l'heure de légitime défense différée, eh bien, en droit pénal, c'est une notion qui n'existe pas. C'est d'ailleurs une notion qui n'a pas été reconnue par la Cour d'assises, composée, comme vient de l'indiquer Maître Zajac, 2 jurés en première instance, 2 jurés en appel, et à chaque fois, la décision de culpabilité a été prononcée à la suite des débats où des témoins ont été entendus, où tout le dossier a été épluché publiquement, et la décision a finalement été rendue. C'est là que la justice se rend, et je ne voudrais pas penser qu'une manipulation de l'opinion publique revient finalement à faire en sorte qu'on va changer les données du débat judiciaire pour obtenir une décision qui n'est pas conforme ni à la procédure ni à la vérité.
Nathalie Tomasini,
oui,
ensuite Jean-Philippe Denis.
Je voudrais réagir, parce que apparemment vous n'avez pas vraiment écouté ce que j'ai dit. J'insiste sur le fait que nous n'avons pas décidé au démarrage de médiatiser cette affaire. Cette affaire, elle a intéressé les journalistes et notre chroniqueur judiciaire ici présent l'a bien souligné, parce qu'il s'agissait de violences conjugales, donc d'un fléau sociétal, et que par ailleurs, effectivement, nous avions décidé de plaider la légitime défense. Tous les journalistes sont venus. Nous ne les avons pas appelés, nous n'avons pas décroché notre téléphone. Par la suite, quand il y a eu ces deux décisions, justement de condamnation à 10 années de prison, l'émoi de la société s'est fait ressentir immédiatement. Immédiatement, sur les réseaux sociaux, l'ensemble des femmes et des hommes d'ailleurs, qui étaient sensibilisés au problème des violences conjugales, se sont fait entendre. Ça a été une vague qui est partie du cœur de la société. On a été porté par cette vague. Comment faire ? À partir du moment où cette affaire était médiatisée, il fallait gérer cette médiatisation. Et c'est pour cela que nous sommes intervenus sur les plateaux de télévision, notamment.
Jean-Philippe Denis, est-ce que vous l'avez senti monter, cette vague ? Et est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, attention, cette vague, elle est peut-être aussi en train de nous submerger en tant que journalistes qui traitons d'affaires judiciaires ?
Instantanément. Je vais, pour compléter les propos de Maître Tomasini, au procès de Jacqueline Sauvage, au second procès, au procès en appel de Jacqueline Sauvage en décembre 2015, il y avait 3 journalistes pour couvrir le procès des médias nationaux. Il y avait France Inter, il y avait Le Parisien, et il y avait 20 minutes. Il y avait 3 journalistes qui ont couvert. Et un mois après, on a la première grâce présidentielle. Un mois après, c'est une véritable vague qui, à mon avis, vient surtout du milieu associatif.
Absolument.
Voilà, et qui a porté et qui a submergé le débat judiciaire, puisque le débat judiciaire était passé, qui a submergé le débat judiciaire, qui a submergé les propos de la défense à la base, là je veux bien le croire, et qui ensuite, vous, avocate de Jacqueline Sauvage, vous l'avez récupéré.
Voilà, on a géré. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que paradoxalement, c'est toujours à la base une réaction de la société qui considère qu'une décision est injuste. Injuste, peut-être pas. En tout cas, c'est le ressenti de la société qui fait qu'à un moment donné, il y a une réaction telle. Donc, on ne peut pas faire aujourd'hui le procès, entre guillemets, des avocates de Jacqueline Sauvage en disant il y a la bonne médiatisation d'une part et la mauvaise médiatisation. C'est absolument pas comme ça que ça s'est passé.
Frédéric Zajac.
Non, mais c'est pas contre Maître Tomasini que je suis intervenu tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. C'est le résultat. C'est qu'on en arrive à un résultat qui n'est pas peut-être une décision réellement de justice. C'est tout. C'est l'influence peut-être de cette vague associative, peu importe, qui est relayée. Je voudrais simplement
influence sur la décision politique, Frédéric Zajac, mais pas sur la décision judiciaire, puisque le jugement avait été confirmé en appel. Donc, on voit bien aussi que les affaires qui sont médiatisées n'ont pas forcément un impact dans le sens qui est attendu par les avocats, et peut-être même peut avoir l'effet contraire.
Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que a dit Monsieur Deniau. En appel, il n'y avait que 3 médias, ce qui démontre bien qu'il n'y avait pas de médiatisation antérieure. Par contre, regardez à l'heure actuelle, je vais vous donner juste un exemple. Le petit Théo, c'est abominable ce qui lui est arrivé, on est d'accord. C'est évident qu'il y a une amélioration. Mais regardez, dans les médias depuis quelques jours, on ne parle que de viol présumé. Enfin, c'est un véritable scandale. Il n'y a que l'innocence qui est présumée dans notre droit. On parle de viol présumé. Voilà une information qu'on lance. Peut-être qu'il y a viol, peut-être qu'il n'y a pas. Moi, je ne sais pas. Mais je suis dans l'opinion publique parce que je ne connais pas le dossier. Mais on parle de viol présumé. On présume un viol maintenant.
Ce qui est très difficile dans ce débat quand on est submergé par l'opinion publique, pour les journalistes qui ont suivi les procès de Jacqueline Sauvage, par exemple, c'est que le débat qui s'installe dans l'opinion publique n'a rien à voir avec le débat qui s'était installé et qui s'est clos dans les enceintes des cours d'assises.
Et en même temps, vous êtes obligé d'en rendre compte.
Et en même temps, nous sommes toujours le relais. Nous sommes toujours le relais. Le relais des débats en cours d'assises, puis le relais du débat de l'opinion publique quand il monte. Et c'est terrible de voir des gens qui, de bonne foi, vont prendre fait et cause pour une personne, ou en tout cas, voilà, pour des faits, alors qu'ils ne connaissent pas très bien le dossier, voire pas du tout le dossier, et que surtout, le débat qu'il pose sur la place publique n'a rien à voir avec le débat qui a été tranché.
Jacques Coulon, quand on est magistrat, comment est-ce qu'on fait pour résister aussi à cette pression médiatique, à cette pression de l'opinion publique? Est-ce que c'est quelque chose qui est relativement simple parce que vous êtes en capacité, par exemple, de vous isoler par rapport à ce bruit, ou bien est-ce que forcément vous y pensez quand vous vous retrouvez plongé dans ces affaires?
Précisément, il est du devoir du magistrat de s'abstraire de cette pression, qui est une pression comme une autre de l'opinion publique, comme il faut aussi s'abstraire de ses propres opinions, parfois ses propres sentiments, et il faut réagir en professionnel, en fonction des éléments du dossier, éléments du dossier, je le répète, qui sont débattus contradictoirement devant le juge, et non pas des éléments partiels, voire partiaux, qui ont pu être diffusés. Alors, pas forcément par les avocats, ça peut être par des associations, ça peut être par d'autres personnes, mais le juge doit juger au nom de l'égalité entre les citoyens, en faisant abstraction de cette pression de l'opinion publique.
Je vais citer la collègue de Nathalie Tomasini qui a répondu à une interview sur iTélé, Janine Bonagiunta, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui disait ceci par rapport donc toujours à l'affaire Jacqueline Sauvage, hein. Les magistrats qui représentent le peuple français auraient dû se fier à tout ce qu'ils entendaient autour d'eux et rendre la justice au nom du peuple français. C'est vrai qu'on peut se dire quand même que, à partir du moment où l'opinion publique semble aller dans un sens, c'est un élément qu'il faut prendre en compte quand même dans une décision de justice, non?
Sauf que, comme vous l'avez dit, l'opinion publique est tout à fait versatile. C'est en fonction de certains éléments qui lui ont été fournis, certains éléments qui ne sont pas forcément en adéquation avec la réalité du dossier. Et la réalité du dossier, c'est elle. Et elle seule qui doit être prise en compte. Et lorsqu'il est jugé au nom du peuple français, c'est pas des magistrats qui viennent de n'importe où. Comme l'a indiqué Maître Zajac tout à l'heure, ce sont des jurés populaires qui, eux, représentent le peuple français. Ils représentent tellement le peuple français qu'ils sont le peuple français.
Alors, je vais reprendre la question, mais peut-être en sortant de l'affaire Jacqueline Sauvage, et je vais vous la poser à tous les quatre. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un sujet qui paraît socialement ne plus être accepté comme il pouvait l'être auparavant. Alors, il y a la question par exemple des violences conjugales, mais prenons, il y a une affaire strictement politique actuellement, l'affaire François Fillon, la question des assistants parlementaires. Alors je sais qu'on va sur un tout autre terrain juridique, mais ce qu'a dit notamment François Fillon était assez intéressant, en disant « moi ce que j'ai fait c'était légal, mais j'ai bien compris qu'aujourd'hui ça n'était plus accepté par la société et il n'est pas impossible qu'on aille vers une modification de la législation pour interdire, par exemple, aux parlementaires d'embaucher leur famille comme assistants parlementaires. Est-ce que ça n'oblige pas quand même à se dire à un moment donné, voilà, la justice ne peut pas se faire en dehors de ce qu'est la société? Absolument. Frédéric Zajac.
Non, mais je partage cette idée. Mais nous ne sommes pas dans le ressort de la justice, nous sommes dans le ressort de la morale. C'est ce qu'a dit François Fillon. Moi, je l'écoute, hein, je suis là encore, je ne suis pas dans le dossier. La différence entre un procès médiatique, quand on place ça sur la place publique, la grosse différence avec une décision de justice, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, mais il y a des voies de recours, elle est débattue. C'est-à-dire que cette décision, il y a du contradictoire, il y a des éléments à charge, des éléments à décharge qui sont débattus, des témoins, des experts, etc. Quand on le met dans les médias, on met l'information qu'on a envie de mettre. Et effectivement, on peut courir après, effectivement, l'opinion publique peut être pour la peine de mort aussi. Donc on peut très bien, alors qu'elle est abolie, on peut partir sur ce mouvement, et je peux vous assurer qu'on va y arriver dans des dossiers qui sont à la limite de la peine capitale, même si elle n'existe plus. Vous voyez, c'est un débat philosophique, et c'est ce qu'on veut. Moi, je considère qu'il faut faire très attention, quand on est un professionnel de la justice, faire très attention à ce qu'on dit, pour justement éviter ce genre de dérive.
Jean-Philippe Denis.
Et là encore, dans le cas que vous évoquez, il y a un tout petit détournement des faits. C'est-à-dire qu'on ne reproche pas à François Fillon d'avoir employé son épouse ou ses enfants. On le soupçonne d'emploi fictif. Et si ça n'avait pas été Madame Fillon, mais sa concierge, je ne sais qui, on aurait très bien pu, ça aurait été moins croustillant certes, mais on aurait très bien pu aussi le poursuivre pour emploi fictif. Le problème, c'est pas d'employer sa femme. Donc il y a un petit détournement pour ramener l'opinion publique à lui.
Oui, et pour faire de ce sujet finalement un sujet de législation, d'inadaptation de la législation, alors que, ouais, effectivement, on est plutôt dans l'idée de savoir si c'était légal ou illégal. Mais on voit bien comment, justement, c'est utilisé médiatiquement pour en faire peut-être autre chose que ce que c'est. Nathalie Tomasini et Jacques Coulon.
Moi, personnellement, je trouve que sans instrumentaliser l'opinion publique, je trouve que c'est sain de prendre le pouls de l'opinion publique, parce que l'opinion publique, c'est aussi une forme de baromètre. Ça rééquilibre le curseur et, entre les forces en présence, et on a une idée, quelque part, de ce que pense la société dans son ensemble. Je trouve que c'est intéressant d'être à l'écoute de l'opinion. On ne peut plus faire sans. Les réseaux sociaux existent, les gens donnent leur opinion sur tous les faits de société, et c'est à prendre en compte.
Mais c'est à prendre en compte comment ? C'est-à-dire, est-ce que c'est à prendre en compte par rapport à la décision de justice qui va être prise ?
En amont, ou pendant, ou après. Là, l'affaire Fillon, c'est en amont. Il n'y a pas encore de procès, il n'est pas encore mis en examen. L'affaire Sauvage, c'était après les décisions de justice, et même pendant. Pourquoi refuser finalement que l'opinion publique s'exprime ? Pourquoi ne pas faire avec ? Ça n'empêche pas la justice de passer, ça n'empêche pas les magistrats de gérer leurs audiences, ça n'empêche pas les avocats de plaider en cour d'assises comme il se doit.
Bon, cela dit, Nathalie Tomasini semble avoir raison, Jacques Coulon, c'est-à-dire à partir du moment où cette médiatisation ou cette hyper-médiatisation ne semble avoir aucun impact sur le travail des magistrats, pourquoi s'en priver ?
Ce que je peux vous dire, c'est concernant l'affaire Fillon, c'est qu'elle sera appréciée selon la légalité et pas selon la morale. Donc les juges qui vont être amenés à se pencher, les magistrats qui vont être amenés à se pencher sur ce dossier, qui se penchent sur ce dossier, c'est en fonction de la loi applicable au moment des faits. Et ce ne sera pas de savoir si, moralement, il était acceptable ou pas acceptable de ce que pense l'opinion publique du fait que des personnes soient rémunérées à des taux qui dépassent la moyenne nationale. C'est pas ça qui importe. Ce sera de rechercher si les éléments constitutifs des infractions sont caractérisés et, le cas échéant, donc d'en tirer les conséquences. Ce ne sera pas sur la morale. Et je veux bien qu'on soit effectivement à l'écoute de la société, mais si on était à l'écoute de la société, comme l'a souligné Maître Sajak tout à l'heure, eh bien la peine de mort, elle n'aurait pas été abrogée en 1981.
Oui, mais à vous entendre, Jacques Coulon, vous donnez l'impression que finalement la justice, ça serait une règle que l'on applique de manière totalement neutre et objective, c'est-à-dire il suffit d'appliquer des textes de loi pour pouvoir juger de la culpabilité ou de l'absence de culpabilité de quelqu'un. Or, il y a forcément un élément humain qui entre en compte. Donc quand on rend la justice, en prenant en compte cet élément humain, c'est bien qu'on peut soit aussi y être sensible et être sensible à ces vagues d'opinion publique.
Alors ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, il s'agira de rechercher si les infractions sont constituées et donc s'il y a matière à sanction. Et effectivement, après, sur le plan humain, eh bien, en vertu du principe de l'individualisation des peines, il sera recherché la peine qui soit la plus adaptée en fonction des éléments de personnalité et tous les autres éléments qu'on aura.
Frédéric Zaja, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, d'être confronté à des magistrats que vous sentiez plus ou moins sensibles justement au bruit médiatique qui pouvait être fait autour des affaires.
La justice est humaine. Un magistrat, c'est un homme ou une femme qui a ses sensibilités, qui bien évidemment regarde les médias, voit les réseaux sociaux, etc. Donc obligatoirement, vous pouvez être confronté à ce genre de difficultés. Alors il faut savoir qu'il y a des voies de recours, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que moi, j'entends là, sur ce qu'on dit au plateau, on parle de la justice avec un grand J. Mais toute cette difficulté de médiatisation, il y a des centaines de gens dont les dégâts ont été considérables parce qu'on a médiatisé une affaire. Ça, on l'oublie, parce qu'on parle bien évidemment des affaires qui sont très, très médiatiques. Mais moi, j'ai des dizaines de clients que j'ai défendus qui ont été mis à la lie au départ dans les médias parce qu'il y avait toute une forme d'information qui, au bout du compte, ont été acquittés au relaxé. On n'en a plus jamais parlé. On n'a pas parlé de l'acquittement et c'est trop tard. Les dégâts sont là. Alors, on a fait des lois, justement, contre ça. Mais les dégâts sont là. Donc, il faut faire très attention. C'est ça que je suis en train de dire. Moi, c'est l'avocat qui vous parle avec des règles de déontologie. Moi, je suis ancien bâtonnier de l'ordre. Je considère qu'on doit avoir des règles de déontologie. On doit informer, justement, la presse quand il y a des contre-vérités qui sont dites, mais on doit faire très attention. Parce que c'est une bombe, les médias. Et les médias cherchent l'information parce qu'il y a un besoin aujourd'hui, un besoin essentiel d'information. On le voit avec les réseaux sociaux, on voit les demandes. Ce qui est logique d'ailleurs. Hein. Et puis, vous savez, ce qui plaît à l'opinion publique, c'est le malheur des autres. C'est jamais son propre malheur, c'est toujours le malheur des autres. Alors quand il y a des affaires comme ça, qu'on soit victime ou auteur, ça plaît. Et ça plaît, donc on a besoin d'informations.
Jean-Philippe, donne nos mêmes questions sur l'impact que peut avoir une forte médiatisation sur une affaire, sur ce que va donner la décision de justice. Est-ce que vous diriez, comme Jackie Coulon, que bah voilà, les magistrats sont suffisamment professionnels? Et ça, il ne s'agit évidemment pas de dire que certains ne le sont pas suffisamment, mais en tout cas pour s'abstraire de tout ce bruit, ou bien est-ce qu'il y a quand même des fois où on sent que forcément ça influence au moins les débats?
Oui, ça influence, les magistrats sont faits de chair et de pensée et de réflexion. Et évidemment, ça influence. Après, est-ce qu'il est besoin d'intervenir au-delà? Moi, je voudrais vous donner deux courts exemples de décision. Sur l'affaire du gang des barbares, il y a eu...
Il faut rappeler, c'est Ilan Halimi qui avait été kidnappé et qui a fini par mourir...
Par Youssouf Fofana et sa bande, son gang des barbares. Au prononcé du premier verdict, du premier procès, il y a eu un mouvement spontané qui est parti des parties civiles, bien évidemment, et qui a poussé la nouvelle ministre de Justice, fraîchement nommée Michèle Alliot-Marie, a demandé au parquet général de faire appel. Il y a eu un procès en appel parce que les peines étaient jugées insuffisantes, pas suffisamment sévères. Il y a eu un second procès, les peines étaient quasiment les mêmes. Deuxième exemple, dans l'affaire des tournantes de Fontenay, donc encore un gang qui procédait au viol de deux jeunes filles. À l'issue du premier procès, la ministre de la Justice, fraîchement nommée Christiane Taubira, a évoqué la possibilité, elle n'a pas demandé, mais elle a évoqué la possibilité pour le parquet de faire appel de peines qui étaient jugées trop faibles. Il y a eu un deuxième procès, les peines étaient quasiment les mêmes. Particularité de ces deux procès, c'était des procès à huis clos. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun compte-rendu dans la presse. Par définition.
Vous sous-entendez quoi? Que si ça ne l'avait pas été, si ça ne l'avait plus été, le jugement aurait pu en être modifié?
Peut-être davantage compris. Non, au contraire, je voulais dire qu'il n'y avait aucun journaliste pour parler des débats, pour relater les débats, et que du coup, on est parti de ce qu'on savait médiatiquement de cette affaire, de ces deux affaires qui sont horribles, mais on n'a pas assisté au débat, on n'a pas entendu les accusés, on n'a pas entendu les victimes, on était exclus du débat. Je ne milite pas pour que les procès soient tous publics, évidemment. Je respecte le huis clos. Mais à la fin, le verdict nous est tombé brutalement et il a été incompris. Et du coup, il y a eu des réactions qui peuvent être normales, jugées normales. Mais quand la justice ne communique pas, là en l'occurrence elle ne pouvait pas communiquer, la décision judiciaire est incomprise. Et du coup, il y a des réactions populaires en méconnaissance totale du dossier.
Donc on voit bien à quel point effectivement la médiatisation est quelque chose de délicat à gérer. Vous avez évoqué des acteurs qui sont importants, dont on n'avait pas trop parlé depuis le début de cette émission, qui sont les acteurs politiques. En l'occurrence, là, les gardes des Sceaux, Michèle Alliot-Marie et Christiane Taubira. On voit bien à quel point, alors s'il y a un milieu qui semble de plus en plus sensible à ce qu'est l'opinion publique, c'est bien le milieu politique qui peut être amené à prendre des positions dans des affaires plus ou moins directement. Revenons par exemple à cette affaire Théo, dont on n'est qu'au début. Quand François Hollande, par exemple, aujourd'hui, se rend au chevet de ce jeune garçon, c'était la semaine dernière. Est-ce que vous y voyez une forme d'immixtion du politique dans une affaire judiciaire, Nathalie Tomasini? Est-ce que c'est quelque chose qui, là aussi, vous semble normal, ou bien est-ce que c'est une forme de pouvoir un peu trop important que prend le politique dans ce genre d'affaires?
Écoutez, de toute façon, à un moment donné, le politique forcément intervient. Bon, François Hollande a gracié par deux fois Jacqueline Sauvage. Effectivement, là, pour le moins, le politique est intervenu. Je crois que...
Il est intervenu pourquoi, selon vous? Parce que l'opinion publique lui semblait favorable à une grâce et donc qu'il n'avait pas envie d'aller contre...
Non. Alors là, je me suis longuement exprimée sur le sujet... Encore une fois, même si tout le monde le rappelle, un président de la République, c'est avant tout un animal politique. Moi, j'ai rencontré l'homme, un homme qui a écouté les filles de Jacqueline Sauvage. Et véritablement, en son âme et conscience, il a décidé de la gracier. Et c'était très simple comme réflexion. Nous sommes allés jusqu'au bout du processus judiciaire. Et quand la Cour d'appel de Paris, la Chambre d'application des peines, a rendu exactement la même décision que le juge d'application des peines de Melun, qu'on était au bout du bout et qu'ils estimaient encore une fois que l'introspection de Jacqueline Sauvage n'était pas suffisante. Le président qui l'avait gracié partiellement s'est dit, mais attendez, là maintenant c'est moi qui suis responsable du fait que cette femme reste en prison parce qu'elle n'a pas eu le temps nécessaire de faire son introspection pour sortir. Donc très logiquement, il l'a gracié totalement. Je voudrais juste rajouter une chose. Dans l'affaire de Jacqueline Sauvage, l'opinion publique n'est pas du tout intervenue en matière, dans le verdict lui-même, puisque vous voyez bien que jusqu'au bout, les décisions judiciaires, malgré la vague de sensibilisation énorme de la société, malgré cette vague-là, les juges ont tenu bon dans leurs appréciations et n'ont pas libéré Jacqueline Sauvage. Donc ils sont allés dans la même cohérence que la condamnation des 10 ans. Donc c'est vraiment le politique, là, pour le coup, qui a écouter l'opinion publique et qui a bien vu qu'il y avait quand même dans ce dossier des dysfonctionnements, et j'insiste et je souligne le terme, pour faire en sorte que justement là, à un moment donné, il fallait faire quelque chose.
Quand le politique écoute un peu trop l'opinion publique et intervient dans des affaires judiciaires, est-ce que c'est quelque chose qui ne modifie en rien les décisions ou est-ce que ça pose quand même problème, Jacques Coulon ?
Le fait pour le président de la République d'aller au chevet d'une victime est évidemment un geste politique, mais il appartient aux magistrats de s'abstraire de cette communication politique et de ne pas céder à une quelconque pression et de prendre fait et cause pour une partie au préjudice de l'autre. Car dans un procès, il y a la plupart du temps au moins deux parties. Et si on suit l'opinion publique en allant vers une partie, eh bien, on désavantage la seconde. Et précisément, il appartient au juge, en vertu de ce principe d'égalité des citoyens devant la loi, de faire respecter les droits des uns et des autres.
Dans la revue Mouvement en 2008, qui était consacrée à cette question de la médiatisation de la justice, ça remonte déjà quelques années, il y avait notamment Pascale Robert-Diard, chroniqueuse judiciaire, qui disait ceci à propos de l'utilisation politique de la figure de la victime. Il disait que cette figure de la victime est aussi un moyen pour les politiques de s'opposer au juge. Jacques Coulon.
Il peut faire passer un message. J'ai pas le sentiment dans cette affaire-là qu'il s'agit de s'opposer au juge.
Non, pas forcément dans cette affaire-là, mais je veux dire en général. Non, Frédéric Zajac, je vois que ça vous fait sourire.
Oui, ça me fait sourire parce que même en entendant mon confrère, bien sûr que le président de la République a une sensibilité comme tout être humain. Ça me paraît naturel, mais bien évidemment que c'est un message politique. Là, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2007, avec les émeutes à Argenteuil, etc. Enfin, je veux dire, c'est un message politique parce que c'est la tendance. Le problème, c'est que le politique, quand il commence, c'est quand même lui qui légifère. Enfin, en tout cas, qui demande, qui propose à légiférer. Donc, il modifie la loi, qui laisse courage politique. Vous voyez bien qu'on est dans l'instantané. Là, il y a l'affaire Théo, il a été voir Théo, ce qui est très bien. C'est un beau message d'humanité vis-à-vis d'une victime, d'une vraie victime. Il aurait pu le faire par végétation pour les policiers qui étaient des vraies victimes aussi. Vous voyez, c'est que des messages politiques, ça. À un moment donné, faut avoir ce courage politique en disant, là, il faut légiférer parce qu'effectivement, on peut pas avoir, si vous voulez, le beurre et l'argent du beurre et de se dire, c'est comme ça. Bien sûr que c'est politique. Pour des raisons diverses. Et l'affaire Sauvage, c'est pareil. Tout ça, ce sont des messages politiques. Même s'il peut avoir une sensibilité. C'est un message politique, il est en fin de règne, si je peux me permettre. Et c'est une façon comme une autre de montrer un président, très ouvert, etc. Ça va un peu avec l'affaire Théo, avec le petit Théo. C'est des messages, tout ça. Voilà. Et effectivement, les juges, moi, je trouve que cette phrase est très belle. C'est vrai que c'est toujours par rapport au juge. Le juge, il a toujours bon dos ou mauvais dos. Moi, je remarque ça. On tape beaucoup sur les juges, les avocats aussi, parfois. Ça dépend du moment. Voilà, ça dépend du moment.
Jean-Philippe Deniaux.
Oui, je pense pas qu'il y ait, je pense que le magistrat est assez imperméable à ce genre de pression. Et d'ailleurs, le tribunal de Melun et la cour d'appel de Paris dans l'affaire Sauvage se sont montrés, ont vraiment étudié le dossier et donné leur vision du dossier en dehors de la pression de la grâce. Donc je pense que le magistrat est suffisamment suffisamment honnête.
Et professionnel.
Oui, et honnête parce que ça demande un travail. Parce que le magistrat, il rentre chez lui, il regarde la télé. Et il est aussi influencé par ce qu'il voit. Il peut être aussi influencé par les mouvements d'opinion.
Est-ce qu'on peut dire tout de même que l'opinion publique, ça peut être considéré comme une forme de contre-pouvoir quand je pense que la société ne se reconnaît plus dans ces institutions, qu'elles soient judiciaires, politiques ou policières, à un certain moment, l'opinion se fait entendre. Et je crois que c'est encore une fois, je le redis, sain.
Alors justement, sur cette, j'allais y venir pour terminer l'émission, sur cette crise de la représentation qui touche aussi peut-être le monde judiciaire et qui pourrait expliquer ces phénomènes d'opinion qui nous semblent de plus en plus nombreux, même si on a toujours du mal finalement à se souvenir de ce que pouvaient être aussi ces phénomènes dans un passé plus ou moins proche. Il y a notamment une campagne qui est en cours sur les réseaux sociaux depuis quelques jours qui s'appelle Stop Prescription. Alors là, on a un certain nombre de vedettes, Jean Reno, Isabelle Carême, Michel Bougenat, je ne vais pas tous les citer, qui demandent l'allongement du délai de prescription des crimes pédophiles, qui est aujourd'hui pour les mineurs victimes de 20 ans, si j'ai bien...
À compter de la date de la majorité
de la victime. Voilà, et ils demandent que ça soit, alors pas forcément une totale imprescriptibilité, mais en tout cas au moins de 30 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de mouvement qui vise justement, alors si ce n'est à influer sur des décisions de justice, mais à influencer la façon dont on va rendre à l'avenir la justice, Jacques Coulon?
Alors là, c'est surtout, j'allais dire, une influence sur le législateur pour qu'il change la loi, mais j'allais dire, c'est une fausse bonne idée, parce que pensez-vous que donc la date de la prescription commence à partir à la majorité, donc à 18 ans, et donc la personne jusqu'à 48 ans pourra dire « Ah, quand j'avais 5 ans, j'ai été violé par telle personne, et il va falloir rechercher des preuves, et on va lui laisser croire que 40 ans après, on va pouvoir retrouver ce qui s'est passé. » Et ça, c'est pas vrai.
Vous n'êtes pas d'accord sur la pertinence de cette modification législative, mais sur la façon dont ça se fait?
Justement, c'est du même ordre d'idée. Le fait que des pressions comme ça, alors cette fois, c'est pas sur la justice, mais c'est sur le législateur pour tenter d'obtenir un allongement de la prescription, on a même parlé d'imprescriptibilité. Mmh. C'est-à-dire au même titre que le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité est le seul crime imprescriptible en droit français. Il faut raison garder. Ce sont des infractions certes graves, mais le délai de prescription de 20 ans à compter de la majorité prend en compte la gravité de ces infractions.
C'est une campagne qui est partie de l'affaire, enfin l'affaire, je ne sais pas si vous... Mais comme ça, mais Flavie Flamand, qui était une animatrice de radio et de télévision, qui a fait un livre dans lequel elle révélait qu'elle avait été violée par un photographe célèbre, David Hamilton, qui s'est donné la mort depuis. Et elle disait ceci à l'AFP: « Si j'avais pu confondre mon violeur dans un cadre légal, je l'aurais fait. Dans mon cas personnel, je n'avais pas d'autre choix. J'ai organisé une sorte de jugement public. » Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Philippe Dogniaux, cette approche-là? De se dire finalement, il fallait que j'aille sur ce terrain médiatique parce que la justice ne me donnait pas le choix.
C'est très difficile de parler à la place ou pour une victime. On n'est pas dans la tête du victime. Mais je rejoins tout à fait les propos de M. Coulon. Je crois surtout que la démarche de ces personnalités qui ont lancé la campagne Stop Prescription est totalement sincère, mais qu'effectivement, ils ne connaissent pas le fond des choses. Ils ne se rendent pas compte que finalement, rallonger de prescription, comme il vient de nous être expliqué, n'avantagera pas la victime. Parce qu'on va lui promettre beaucoup de choses et ça n'aboutira pas. Même déjà aujourd'hui, avec un délai de prescription de 20 ans après la majorité, même avec ce délai de prescription, beaucoup d'affaires de viol ou d'abus sexuels se terminent en non-lieu.
En même temps, bien sûr, il y aura un problème de preuve. Maintenant, psychologiquement, c'est toujours important justement pour une victime d'arriver au moins à faire entendre sa parole.
Mais non, si ça n'aboutit pas, ça va être encore plus terrible pour elle.
Je ne le crois pas. Je pense que le fait de se faire entendre, c'est déjà extrêmement important pour une victime, indépendamment de la sanction.
Frédéric Zajac, juste pour conclure...
Une phrase, je trouve ça totalement sincère, mais totalement démagogique.
Est-ce qu'il y a parfois, plus que d'une phrase, des affaires qui ont bénéficié? Vous disiez, il y a de vrais risques de la médiatisation, mais est-ce qu'il y a des affaires qui ont bénéficié de la médiatisation et qui ne seraient peut-être pas allées jusqu'à leur terme s'il n'y avait pas eu cette aide qui peut être celle des médias?
Je vois ça dans les actions en révision, dans les procès en révision, mais avec un travail de journaliste approfondi, un travail d'investigation. Effectivement, on refait un dossier parce que le dossier est terminé avec effectivement un vrai travail d'enquête. On n'est pas sur l'instantané, on est sur un travail d'enquête. Effectivement, là, il y a pour le coup, effectivement, on a une vraie possibilité avec des journalistes d'investigation.
C'est le cas de Patrick Dils
qui a pu
au bout de
l'affaire Cézanne qui s'est battue. Bon, ça n'a pas été le cas, mais c'est du travail même d'historien presque. Mm-hmm. Où effectivement, on réhabilite quelqu'un.
Bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Jean-Philippe Degnaud, Jackie Coulon, Nathalie merci. Tomazini et Frédéric Zajac. Discussion que vous pouvez réécouter sur notre site internet, à la page du Grain à Moudre, sur franceculture.fr. Vous pouvez la réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez nous podcaster, commenter l'émission, nous suivre sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richet, Cyril Baer, Louise Fuseau. Émission réalisée par Anne-Laure Chanel, avec à la prise de son Thibaut Gervaise. Demain, la Chine prend-elle enfin ses responsabilités ? Ce sera notre sujet à partir de 18h20.